When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour et bienvenue dans L'Actu dans la Poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcastine. Podcastine, ce sont des entretiens avec des journalistes, des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle Jean-Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Raphaël Larder de l'équipe Podcastine.
Nous nous retrouvons pour ce deuxième épisode consacré à vous, Simon Puech, sur Podcastine. Après avoir parlé de votre travail et notamment de votre reportage en Ukraine, nous allons parler de vous, de votre parcours, car finalement vous êtes un autodidacte. Alors, il n'y a pas d'école pour devenir youtubeur, du moins pas encore. Avant d'atterrir sur la plateforme, est-ce que vous faisiez des études peut-être ?
Alors moi j'étais étudiant, j'étais au lycée Camille Julien à Bordeaux, pour ceux qui connaissent. Et puis ensuite j'ai fait des études de commerce numérique à une école sur les quais, avec qui ça s'est mal fini parce que l'administration c'était compliqué. Du coup après j'ai fait un master 2 à l'INSEC, donc école de commerce, tout ce qu'il y a de plus lambda. Et en fait déjà quand j'étais à l'INSEC en master 2, j'étais absent quasiment à un cours sur 4 ou 3 parce que mon activité YouTube avait commencé. En 2016 quand j'ai démarré, j'étais donc en bachelor 3 dans cette école de commerce numérique, mais voilà, j'avais fait ça un peu au hasard parce que je me disais j'aime bien internet, le commerce, j'ai fait ES, c'est assez générique, on va aller là-dedans. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne quoi. Enfin, je veux dire, au début, je faisais ça pour le plaisir, un peu comme ce que répondrait n'importe quel youtubeur, et puis ça a fini par prendre. C'est devenu mon activité principale, mais tout ce qui est relatif à la vidéo, je l'ai complètement appris sur le tas, quoi. C'est absolument pas les écoles qui me l'ont appris du tout.
Mmh. Oui, on comprend bien que vous jongliez à l'époque entre ouais. Vos études YouTube. On s'imagine que les débuts sur YouTube ont dû être difficiles. Pour nos auditeurs, il faut savoir que même avec beaucoup de vues sur une vidéo, c'est compliqué de se dégager un salaire décent. À quel moment vous avez pu vous consacrer à plein temps ?
En fait, ce qui est compliqué avec YouTube, c'est que les revenus sont très dépendants des vues des vidéos. C'est très dépendant aussi de la période de l'année. Par exemple, à Noël, concrètement, une vue vaut plus cher qu'en plein milieu de l'été. Bref, donc c'était un peu le bazar. Moi, c'est vers 2018 que j'ai commencé à bien rentrer des revenus avec. Mais même, je me souviens que quand j'étais en Master 1, j'avais des discussions avec des amis youtubeurs américains. On s'était rencontrés à Paris et je leur disais, en vrai, quand je vais avoir terminé mes études, je vais me trouver un travail normal en agence de com et puis je continuerai YouTube à côté. Et eux me disaient, non, mais vas-y, lance-toi. En fait, c'est pas maintenant, ça sera jamais. Et en fait, le moment où ils m'ont dit ça, ça a corrélé avec une marque que je ne bénirai jamais assez pour ça. C'est Red Bull. En gros, quand j'ai commencé à finir mes études, Red Bull sont arrivés dans mes mails en me disant « Salut, on a un mec chez nous qui regarde ton travail, ils aiment bien ce que tu fais. Et nous, on va lancer une chaîne YouTube à l'époque qui s'appelle Red Bull Banks, qui parle de rap français. Et on a besoin de gens pour nous conseiller. Donc, on va te rémunérer tous les mois pour ça. Ça va pas te prendre beaucoup de temps, ce sera chez toi. Et puis, tu vas faire ce que tu sais faire, c'est-à-dire... faire du YouTube, mais pour nous, sur la thématique du rap français. Donc en fait, quand mes études se sont arrêtées, même si ma chaîne YouTube à moi vivotait bien, je faisais du revenu, mais pas assez pour que je me fasse plaisir, donc je me disais, en vrai, je vais quand même trouver un travail à côté, j'avais Red Bull qui me disait, t'es chez toi, t'es en télétravail, juste tu nous conseilles sur nos chaînes. La chaîne Red Bull Banks a marché du feu de Dieu, on était tous trop contents, il y en a eu une deuxième après qui parlait de gaming qui est née. Je travaille toujours aujourd'hui avec eux, ça représente plus du tout comme à l'époque une majorité de mes revenus. Maintenant, c'est une minorité, mais en fait, je suis tellement content de travailler avec eux, ça se passe tellement bien, les projets sont tellement cool que voilà. Donc en vrai... j'ai gagné de l'argent à partir de 2018, mais j'ai pu me dire je vais faire que ça quand j'aurai fini mes études grâce à Red Bull et maintenant j'ai toujours les deux. Ma chaîne YouTube a beaucoup pris donc j'en vis sans problème et Red Bull je le garde parce que c'était trop bien et c'est toujours trop bien.
Alors aujourd'hui on le comprend bien avec ce que vous nous dites, vous êtes reconnu dans la profession, la vidéo sur l'Ukraine a fait 1,3 million de vues, c'est d'ailleurs un très bon score. Est-ce que vous gagnez bien votre vie ? Où est-ce que vous vous situez par rapport aux autres pour nous donner un rapide aperçu de paysage en France ?
En gros, maintenant, je suis en SASU. Hein. Ce qui est rigolo, c'est que, enfin, en SAS, ce qui est marrant, c'est que quand on commence à faire des vidéos dans sa chambre, on s'imagine jamais que on va finir chef d'entreprise, parce qu'à la fin, c'est le cas. J'ai des amis à moi qui ont commencé. Aujourd'hui, ils ont plus rien dans YouTubeur. Enfin, je veux dire, ils sont managers, mais c'est pas eux qui écrivent, c'est pas eux qui font du montage. Enfin, voilà quoi, ils présentent en fait. Mais oui, en gros, je fais un chiffre d'affaires à l'année qui est entre ma boîte entre 150 000 et 250 000 euros. Voilà, c'est dans cette fourchette-là. Donc ça, c'est ce que rentre l'argent de la boîte. Hein. C'est parce que moi, je touche à la fin. Après, j'utilise l'argent de la boîte pour les projets de la boîte. Je me verse un salaire comme tout le monde. Mais voilà, le chiffre d'affaires est dans ces eaux-là. Le truc, c'est que c'est un métier qui, effectivement, est très nouveau, même au niveau de la comptabilité. C'est rigolo parce que il y a des dépenses, comme par exemple bah, les vêtements. Ça va être utilisé en vidéo, mais en même temps, c'est aussi quelque chose qu'on aurait dans tous les cas acheté. Donc, est-ce que c'est la boîte qui le paye? Est-ce que c'est nous? Il y a plein de choses aussi qui sont bizarres. Les animaux de compagnie, pour beaucoup d'influenceurs, que ce soit sur Instagram, YouTube ou Twitch, ça peut être une mascotte littéralement du contenu. Pour autant, c'est ton animal de compagnie. Donc, est-ce que c'est la boîte? Est-ce que c'est toi? Donc, effectivement, c'est des métiers qui sont très nouveaux où la comptabilité doit s'adapter. C'est assez marrant. Et concernant ce que gagne chacun d'entre nous, pareil, là j'ai donné un chiffre d'entre 150 et 250 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Moi j'ai à peu près 400 000 abonnés, mais je sais qu'il y en a qui ont beaucoup moins d'abonnés, qui font beaucoup plus, et à l'inverse, certains qui ont beaucoup plus d'abonnés, qui font beaucoup moins. En fait, c'est des métiers où, en fonction de si on est sur un créneau où il y a beaucoup de concurrence, comme le lifestyle par exemple, ou alors si on est sur une niche. Si jamais on sait bien se vendre aussi, parce que si on n'a pas d'agent, on peut très vite se retrouver dans le flou, à se sous-payer ou à se surpayer, où les revenus sont très différents. Et ça m'a étonné des fois de voir des gens que je connaissais qui avaient des millions d'abonnés, quand je parlais de prix sur Twitter, etc., venir me dire « mais attends, tu prends, je dis un chiffre au hasard, tu prends 10 000 euros pour une vidéo, mais moi je prends 3 000 par exemple », alors qu'il avait genre vraiment 15 fois mon audience, quoi. Donc il y a des gens qui n'arrivent pas à s'orienter. Donc ce qui est valable pour moi peut être radicalement différent pour d'autres. Après, il y a une constante qui est quand même assez classique, c'est que, d'une manière générale, toutes les têtes d'affiche, tous les énormes youtubeurs sont millionnaires et de loin. Voilà. Après, c'est un métier qui, pour énormément d'appelés, a très très peu d'élus. Il ne faut jamais oublier, et ça c'est un truc que je répète tout le temps, souvent, il ne faut jamais oublier non plus que derrière le travail, il y a aussi un facteur qui est monstrueux. Il faut en avoir conscience, de chance. Enfin, moi, la quantité de chance qu'il en a fallu pour en arriver là, j'ai arrêté de la compter, quoi.
Comment est-ce que vous gérez aujourd'hui, parce que vous êtes énormément suivi, comment vous gérez un peu, vous, votre notoriété? Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue, par exemple, à Bordeaux, puisque vous êtes à Bordeaux?
Si je marche à pied dans la rue une heure, oui, tous les jours. Mais non, c'est très cool parce que en fait, j'en suis au stade où c'est très agréable, c'est-à-dire qu'on me reconnaît tous les jours, c'est sympa, c'est des gens qui sont très sympas, c'est toujours des petites interactions très cool, en mode « mec, j'aime bien ce que tu fais », des fois il y a une photo, des fois il n'y en a pas, peu importe. Donc non, c'est très très cool. Alors j'ai la fâcheuse tendance aussi à souvent ce qu'on me reconnaisse quand je suis bourré en boîte ou en festival, ça c'est toujours des scènes plus drôles, mais en vrai c'est une notoriété qui est très agréable, c'est très cool. J'ai des copains youtubeurs qui eux sont avec des millions d'abonnés au compteur, c'est un peu plus chiant. Là, pour le coup, c'est un peu plus envahissant. Bon, après, les gens maintenant sur YouTube sont habitués à ce que les youtubeurs aient un peu défriché le terrain en disant, voilà, vous pouvez venir nous voir quand on est tout seul ou voilà, c'est simple, mais quand il y a de la famille ou quoi, bon, évitez. Donc, les gens sont très respectueux, très sensibilisés à ça. Et moi, j'en suis honnêtement au stade ultra confortable, quoi. Swerving between emotions, I know we got real issues. Can't give in so easily, whoa, whoa. Whoa, 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 whoa. Ain't going out with no fight, no. I'm just trying to play my part, yeah. I'm not ready to let go, whoa, whoa. Oh, when you're ready, we can put this behind us. Maybe we can find us again, I know. Put this behind us, we can find us again. Cause I don't wanna go. I was alone in this world, and I needed people. I know my funeral gon' be lit, cause how I treated people. I don't wanna go, I don't wanna.
Alors à Podcasting, nous sommes attachés aux personnalités du Grand Sud-Ouest, aux acteurs de la région. Pourquoi vous êtes resté à Bordeaux alors que la majorité des youtubeurs sont à Paris et que c'est là où la scène internet est la plus forte?
En fait, ce qui est rigolo, c'est que dans l'influence française, il y a trois villes. Donc il y a Paris qui est évidemment la dominance absolue. Les youtubeurs Amixem, qui est un gros youtubeur français, a réussi à créer un pôle de youtubeurs à Angers. Alors allez savoir pourquoi. Et quand il s'agit de Twitch, donc le streaming en ligne, c'est Montpellier. Parce qu'un autre gros streamer, pour le coup, lui, Zerator, a ramené tout le monde là-bas. Mais Bordeaux, c'est un peu le vide, malheureusement. Moi, je suis né à Bordeaux, j'ai fait 2 ans à Paris pour un stage, enfin pour de l'alternance, mais je suis revenu ici parce que bah, juste j'aime cette ville. Puis au-delà de ça, j'ai de la famille ici, donc le temps passé avec eux, bah, maintenant, il est de plus en plus faible, donc j'en profite. Mais non, c'est une ville que j'aime beaucoup, elle est agréable, etc. Alors oui, c'est malheureusement le reproche que je fais à Bordeaux, c'est que les opportunités, ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. Je veux dire, à Paris, dans une soirée, on se retrouve... avec 3 mannequins, 8 PDG et 6 chanteurs. Bon, à Bordeaux, on a quelques chefs de projet en agence de com. C'est très bien, mais c'est moins facile d'avoir des opportunités faciles, enfin, dans tous les sens. Donc, pourquoi est-ce que je suis resté à Bordeaux ? Parce que juste, je sais pas, au-delà de ça, la vie est plus calme par rapport à Paris. J'ai eu du mal, j'ai eu l'occasion de vivre un peu à Stockholm, un peu à Montréal et un peu à Londres. Non, c'est juste une ville que je trouve agréable. Et c'est rigolo parce que les gens sur Twitch et YouTube le savent, je fais une espèce de propagande pour cette ville sur les réseaux, c'est infernal. Vraiment, j'essaie de la vendre à tout le monde. J'ai réussi à convertir une pote à moi, Avamind, streameuse, grosse streameuse française à venir. J'essaie un peu de grappiller du terrain, mais effectivement, lutter contre Paris et la centralisation française dans cette ville, c'est compliqué. Mais non, juste, j'aime trop cette ville pour partir, quoi.
On a évoqué tout à l'heure l'interview que vous avez donnée à Backseat, qui est une émission politique animée sur Twitch par Jean Massier. Là, vous avez déclaré dans cette interview chercher des pays dans lesquels vous aimeriez à nouveau vous rendre. Donc, il y a eu l'Afghanistan, dont on a parlé. Est-ce que vous avez identifié de nouveaux territoires en guerre qui vous intéresseraient ?
Alors, c'est pas nécessairement en guerre, parce que c'est pas un truc.
En conflit, en tout cas.
Oui, okay. Ouais, mais même au-delà de ça, c'est pas forcément. Un truc qui me branche plus que ça. Non, c'est juste des pays où il y a des situations intéressantes à filmer. Alors, j'ai identifié quelques trucs, mais donc il y a ce que je disais tout à l'heure, en France, hein, c'est pas très compliqué, c'est les prisons, la situation carcérale. Il y a aussi un truc qui a pas mal été fait sur YouTube, mais le porte-avions Charles de Gaulle, un peu son histoire, d'où il vient, etc. Il y a des pays d'Amérique latine qui m'intéressent aussi pour des reportages, des pays d'Afrique centrale. 2-3 situations en Asie aussi qui sont bien. Le truc que j'ai toujours voulu couvrir, mais qui est d'une difficulté sans nom, c'est le Cachemire au nord de l'Inde, qui est une région où il y a un bras de fer entre 3 puissances nucléaires, à savoir le Pakistan, la Chine et l'Inde. Et c'est le bordel depuis les années 70. Je m'étais renseigné pour y aller avec un journaliste de l'AFP, pas de l'AFP, de American Press, je sais plus. Society Press, merci. Qui est l'équivalent de l'AFP aux États-Unis, qui est lui originaire de là-bas et qui me disait, mec. Oublie tout le monde, enfin c'est impossible. Donc il y a quand même quelques théâtres comme ça qui sont intéressants. Maintenant, pour le moment, on est plus sur des trucs locaux dans les projets. J'avais un mec aussi, c'était intéressant. Malheureusement, j'ai perdu son contact, qui s'était battu aux côtés du PKK. Donc le PKK, ce sont les Kurdes. Voilà. Et lui, il m'avait dit, mec, j'ai vu ton reportage en Afghanistan. Je me suis battu aux côtés du PKK. Si tu veux, il y a un truc à faire. J'avais pris son Instagram à l'époque et je ne le retrouve plus. Donc, si mec, tu écoutes ce truc, je te cherche. Si tu écoutes ce podcast, je te cherche. Mais voilà, donc il y a des fois des sujets comme ça, le PKK notamment et toute sa lutte, ça m'intéressait beaucoup.
Pour l'instant, vous êtes youtubeur. Comment vous envisagez un peu l'avenir ? Est-ce que c'est un métier que vous souhaitez exercer toute votre vie ? Ou alors est-ce que vous voyez un peu, comme vous l'avez dit, des trajectoires de vos amis qui font un peu autre chose ? Est-ce que vous voulez continuer à être indépendant, à produire des vidéos ? Qu'est-ce que vous voulez faire ?
Alors là, la démarche en ce moment, c'est je me suis chopé un bureau il n'y a pas longtemps parce que jusqu'ici, j'étais encore tout le temps chez moi. Alors soit c'était mon salon, soit c'était sous mon escalier. Mais bon, bref, je me débrouillais. Là, ça fait littéralement une semaine que j'ai récupéré les clés d'un bureau que je vais aménager. Donc le but, en fait, c'est de continuer d'avoir quelque chose de qualitatif avec une régularité de poste qui est décente, à savoir une fois toutes les 3 semaines, tous les mois au grand max. Mais c'est de me décharger un petit peu de la charge de travail que j'ai, que je connais par cœur, à savoir l'écriture et le montage. Là, la piste d'évolution pour cette année et les suivantes, c'est voilà, de régulariser un co-auteur, d'avoir un monteur que je forme moi-même et qui accompagne l'autre, que Selji, que je fais travailler de temps en temps sur des vidéos. Et puis voilà, mais non, j'ai pas l'intention, j'ai des amis qui ont des ambitions de malade à devenir des monstres de YouTube et faire des trucs de fou, voilà. Moi, c'est plus non, continuer de parler de trucs qui m'intéressent, bien gagner ma vie et en même temps, si je peux faire travailler 3-4 personnes en même temps qui me permettront de décharger la charge de travail que j'ai à assumer, tant mieux.
Donc pas de gros projets à la Squeezie avec le Grand Prix Explorer, pas de projet de stream ensemble ou d'émission peut-être.
Ah si, mais ça c'est pas ce que j'appelle des projets d'évolution énormes. moi, ce que je pense, ce que j'entendais, que vous disiez par projet d'évolution énorme, c'était carrément genre que la SAS devienne un truc de fou avec des associés et tout. Non, à ce niveau-là, je vais quand même rester à échelle humaine. Par contre, oui, des projets qui peuvent avoir des grosses prods et tout derrière, si, carrément. S'il y en a qui se présentent ou si des idées me viennent, avec plaisir. Mais là, par exemple, pour la fin de l'année, j'ai déjà 4 ou 5 vidéos de prévues, des collabs avec des potes, etc. etc. Va falloir trouver le temps de caler des gros projets. Mais en tout cas, c'est des trucs qui se réfléchissent des mois à l'avance. Mais non, bien sûr que si, il y aura des vidéos qui ont de l'ambition, comme a été le cas l'Ukraine, l'Afghanistan, le reportage sur, sur les étudiantes qui étaient obligées de se prostituer, etc. etc. Des vidéos qui sortent juste de mon bureau, il y en aura.
Finalement, on peut le dire après cet entretien que votre chaîne YouTube est un peu une niche, hein, dans le sens où, comparé au flot de divertissement, vous traitez, vous, des sujets qui sont très sérieux. Quelles ont été vos influences, des personnalités peut-être qui vous plaisent et qui vous ont donné l'envie de vous lancer dans ce métier ?
Moi, quand j'ai commencé, c'est rigolo parce que dans la toute première vidéo, celle sur Hotline Miami, il y a une référence à un YouTuber que j'aime beaucoup qui s'appelle Cyrus North. Et aujourd'hui c'est un pote, la prochaine vidéo qui sort là demain soir il est dedans, enfin voilà, on se voit régulièrement sur Paris. Donc il y a Cyrus, il y a Charlie Danger qui a une chaîne qui parle justement d'histoire, d'archéologie, etc. Il y a la chaîne du canapé au début quand je parlais de jeux vidéo de laquelle je me suis inspiré. Aujourd'hui il y a beaucoup de grands reporters, notamment Charles et d'autres. Les influences elles sont ultra nombreuses.
Et quand vous étiez un peu plus jeune, avant YouTube, avant votre vie sur YouTube, est-ce que peut-être des journalistes, des reportages vous ont donné envie de partir, de réaliser vos envies ?
Moi j'ai grandi, les influences journalistiques, j'avoue qu'il y en a, quand j'ai commencé YouTube, il y en avait peu, je m'y suis mis à m'y intéresser là très récemment, parce que justement, la chaîne a changé l'éditorial, mais moi quand j'ai commencé YouTube, ça parlait de jeux vidéo, donc en vrai mes inspirations c'était énormément de jeux vidéo, je suis un gros joueur de jeux vidéo. Comme tous les gens de 26 ans de mon âge, je pense que j'ai consommé à peu près les mêmes médias culturels. À l'époque, quand moi j'ai démarré YouTube, c'était un peu le début de Squeezie, il y avait du Cyprien, etc. Et dans les chaînes qui parlaient de vulgarisation, il y en avait pas des masses, il y avait Nota Bene, il y avait Y Penser, ce genre de personnes. On s'inspire un peu à droite à gauche. Après, à dire de là qu'il y a une chaîne ou une œuvre culturelle qui m'a forgé, non. C'est un espèce de melting pot d'un peu tout et n'importe quoi. Et puis, plus la chaîne a changé l'éditorial, plus effectivement mes influences ont été des médias traditionnels comme, on parle beaucoup du Monde, mais ça peut être notamment aux États-Unis, Wired, le New York Times. En France, il y a aussi Ouzbek Erika, l'ADN qui m'ont un peu donné les pistes de vers où je voulais m'orienter. Mais ça s'est fait inconsciemment, je veux dire, j'ai infusé là-dedans. C'était pas, ça c'est vachement bien, je vais faire comme eux. C'est beaucoup d'influence de droite et de gauche en général.
Merci beaucoup Simon Pêche.
Merci beaucoup à tous ceux qui ont écouté ce podcast. Merci à vous d'avoir invité. Et c'était très chouette, en espérant que les gens qui ont écouté, du coup, si jamais ils ne connaissaient pas l'écosystème YouTube ou Twitch, ça leur aura donné envie de s'y intéresser.
Merci Simon Pêche d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vos reportages en Ukraine et en Afghanistan sont à retrouver sur votre chaîne YouTube. Et vous êtes aussi présent sur Twitch où vous mettez votre calendrier à jour.
Merci Raphaël Larder. C'est la fin de cet épisode de Podcasting, merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène Garaïco-Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.